Bonjour à chacun. Si on m'avait dit il y a quelques années, ou en tout cas si on m'avait dit il y a 17 ans de cela, qu'un jour je prendrais la parole dans une église pour partager l'espérance que j'avais en mon Dieu, j'aurais ouvert des yeux comme ça. Parce qu'il y a 17 ans encore, jour pour jour, je ne croyais pas en Dieu, ni en rien de surnaturel d'ailleurs. Étant convaincu que Dieu n'existait pas, je rejetais toute croyance, mais aussi tout rite religieux, car je considérais que tout cela ne faisait qu'enfermer encore plus les hommes dans la superstition et l'obscurantisme. Et j'étais particulièrement critique vis-à-vis du christianisme et des chrétiens. Alors, rassurez-vous, mon regard a changé depuis. Mais le début de ce changement a été possible parce que je me suis lié d'amitié avec un couple de chrétiens. Très souvent, nous parlions de Dieu. Alors, eux, de leur côté, me partageaient leur foi, leur espérance. Et moi, de mon côté, je m'évertuais à essayer de leur démontrer que tout pouvait s'expliquer sans Dieu et rationnellement. Nos positions étaient donc radicalement opposées, et cela signifiait donc qu'au moins un de nous était dans l'erreur sur la question de l'existence de Dieu. Soit eux, soit moi, soit tous les deux, nous nous trompions sur l'existence de Dieu. Et comme c'était des gens que j'appréciais énormément, et je trouvais que c'était des gens qui se posaient les bonnes questions, qui avaient une bonne démarche, pour la première fois de ma vie, je me suis mis à envisager une hypothèse qui était « Et si jamais c'était moi qui me trompais ?» J'étais toujours convaincu que Dieu n'existait pas, mais par honnêteté intellectuelle, je me devais au moins d'essayer le plus justement possible, avec le plus d'honnêteté, de vérifier si oui ou non Dieu n'existait pas. J'ai donc fait une sorte de marché avec Dieu, ou en tout cas, j'ai fait une sorte de marché avec le Dieu avec lequel je ne croyais pas, donc c'est un peu particulier. Vous parlez à un Dieu, vous pensez qu'il n'existe pas, mais malgré tout, vous essayez. Et je disais, Dieu, non, j'étais très familier avec Dieu, hein, je n'étais pas encore converti, mais ça ne me posait pas de problème. Je disais, voilà Dieu, écoute, moi de mon côté, je veux bien essayer de mettre tous mes préjugés, tous mes a priori qui me disent que tu n'existes pas. Mais toi, si jamais tu existes, eh bien toi, tu me le montres. Et je me suis mis à lire ma Bible. C'était au mois de mars 1993. Et le Dieu dans lequel je ne croyais pas a accepté le marché que je lui proposais. J'ai commencé ma lecture par l'évangile de Matthieu, et en quelques minutes, à peine, je suis arrivé déjà à une première conclusion. Je me suis dit que la Bible avait été écrite par quelqu'un d'absolument extraordinaire. Quelqu'un qui avait une connaissance et une finesse du cœur humain plus grande que tout ce que j'avais pu lire jusqu'à présent. Je vais vous passer les étapes, enfin, en tout cas je ne vais pas donner tous les détails, mais en 3 ou 4 semaines, je suis passé par tous les points suivants. D'abord, j'ai dû me résoudre à accepter l'idée qu'il existait une puissance invisible, une puissance surnaturelle, qui intervenait dans ma vie, aussi bien dans ma tête qu'au travers des événements. Et cette puissance intervenait pour démonter un à un tous les arguments que j'avais dressés, tous les arguments sur lesquels je m'appuyais pour m'assurer que Dieu n'existait pas. Quelques temps plus tard, je crois quelques jours, quelques heures, je m'en souviens plus bien, je suis arrivé à la conclusion que cette puissance était Dieu lui-même. Pas une puissance parmi tant d'autres, mais Dieu. Nouvelle étape, que ce Dieu qui intervenait dans ma vie était le Dieu de la Bible. Donc la Bible était une source fiable sur laquelle je pouvais m'appuyer pour apprendre de Dieu. Ensuite, j'ai réalisé que moi qui me pensais quelqu'un de bien, quelqu'un de juste et de droit, eh bien vis-à-vis de Dieu, je m'étais rebellé contre lui et que je me devais de lui demander pardon. La dernière étape, c'était de réaliser que ce pardon m'était offert en Jésus. Le 17 avril, je m'en souviens bien, le 17 avril, j'ouvre les yeux, je dormais, je précise, je dormais, je me réveille, et là, j'avais un très très fort désir dans mon cœur. Le désir d'être baptisé. Je suis allé frapper à la porte de mes amis, et je leur ai expliqué que je souhaitais que mon ami me baptise. Pour moi, ma demande était très simple et très naturelle. Je croyais en Jésus et je voulais être baptisé. Je me suis donc adressé aux chrétiens que je connaissais. Mon ami, lui, qui dormait d'ailleurs quand j'ai frappé à sa porte, s'est réveillé, a entendu ma demande et m'a dit qu'il allait réfléchir. Il n'était même pas pasteur, encore moins attaché à une église, il ne fréquentait pas d'église. Et il m'a dit donc qu'il allait prendre le temps de prier, de réfléchir, et qu'il me donnerait sa réponse. Au bout d'une heure ou deux, c'était assez rapide, il m'a dit qu'il était arrivé à la conclusion que rien n'empêchait que je sois baptisé. Parce que suite à ma demande, c'était sa question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il n'a rien trouvé qui puisse l'empêcher. Donc il m'a dit d'accord. Alors j'ai téléphoné à quelques amis et en début d'après-midi, nous sommes allés au bord d'un lac. Et là, j'ai été baptisé par mon ami. Mi-avril en région parisienne. Il faisait froid. L'eau était très froide. Il y avait du vent. Il y avait même un peu de pluie. Mais je garde de mon baptême un excellent souvenir. C'est seulement après cela que je me suis mis à rejoindre une église, l'église la plus proche de chez moi. C'est aussi seulement après cela que j'ai réalisé que mon baptême était hors norme. En règle générale, les gens commencent d'abord par fréquenter une église. Ils s'y convertissent et au sein de cette église, ils se font baptiser devant les membres de l'église. Mais j'ai surtout réalisé une autre chose un peu plus tard, en apprenant à connaître mes frères et sœurs. J'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Dans l'église, il y avait des chrétiens qui n'étaient pas baptisés. Étonnante constatation pour quelqu'un qui, comme moi, avait un vécu en dehors de l'Église. Alors que je ne fréquentais aucune Église, j'avais lu ma Bible, j'avais cru en Jésus et j'avais tout naturellement demandé le baptême. C'est même moi qui ai dû aller solliciter mon ami pour qu'il accepte de le faire. Sans vie d'Église, sans culture évangélique, sans même jamais avoir vu un baptême, j'ai réclamé le baptême parce que je le désirais de tout mon cœur. J'en avais envie. Mais dans l'église, et une église comme celle-ci, baptiste de surcroît, je rencontrais des chrétiens qui n'étaient pas baptisés. Qu'est-ce qui avait empêché ces chrétiens d'être baptisés? Ce matin, nous allons chercher à répondre à cette question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 8. Actes chapitre 8. Et je commencerai ma lecture au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je, si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tend, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Comme l'a fait le serviteur éthiopien, il est juste et bon que l'on se pose cette question. En effet, il existe un certain nombre de raisons qui empêchent d'être baptisé. Reste à savoir si, selon la Bible, les raisons qui empêchent d'être baptisé sont de bonnes raisons qui viennent de Dieu ou de mauvaises raisons qui ne viennent que de nous. Je vous propose donc, dans un premier temps, d'examiner ce qui apparaît clairement dans la Bible et qui, selon Dieu, nous empêche d'être baptisés. Et dans un deuxième temps, nous regarderons quelques-unes des autres raisons non bibliques, celles-ci, qui peuvent nous empêcher de passer par les eaux du baptême. Tout d'abord, qu'est-ce qui, selon Dieu, nous empêche d'être baptisés ? Dieu a pris soin de nous préciser les conditions que toute personne doit remplir pour être baptisée. Et c'est assez simple, car il n'y en a que deux. Acte 2.38 « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Pour être baptisé, il nous faut d'abord nous repentir de notre péché. C'est-à-dire que nous regrettons, que nous demandons pardon à Dieu d'avoir péché contre lui, et aussi que nous décidons de ne plus pécher. Jusqu'à présent, nous nous opposions à Dieu, mais par la repentance, nous changeons notre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela qu'au lieu de dire « repentez-vous », certaines autres Bibles traduisent cela par « changer d'attitude » ou « changer radicalement ». Car une véritable repentance porte des fruits. Matthieu 3.7 « Comme Jean-Baptiste voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, il avait une grande liberté dans sa parole, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » La première condition qu'il nous faut remplir pour être baptisé, c'est donc de se repentir. Par notre repentance, nous reconnaissons que Dieu est notre Seigneur. celui à qui nous devons rendre des comptes, celui que nous devons suivre, celui à qui nous devons obéir. Et selon la Bible, voici la deuxième condition à remplir pour être baptisé. À nouveau, acte 2:38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Pour être baptisé, nous devons accepter de recevoir le pardon de nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous méritions la mort en raison de notre péché, mais Jésus est mort à notre place afin de pardonner notre péché. C'est-à-dire pour cette raison que la forme biblique du baptême est une immersion complète dans l'eau. D'ailleurs, le mot grec qui a donné baptême signifie immerger. La disparition du corps que l'on immerge dans l'eau représente un ensevelissement, la mort. Et la réapparition du corps qui sort de cette eau, la résurrection et la vie. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Voilà les deux seules conditions que Dieu exige de la part de ceux qui se font baptiser. La repentance de notre péché, l'acceptation que c'est la mort de Jésus qui nous sauve de la conséquence de notre péché, la mort éternelle. Une autre manière de le dire, c'est que le baptême est réservé à tous ceux qui croient que Jésus est leur Seigneur et que Jésus est leur Sauveur. Il n'y a, selon la Bible, ou alors je ne l'ai pas trouvé, rien d'autre qui empêche ceux qui croient que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur d'être baptisés. Mais croire que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, n'est-ce pas justement ce que tous les chrétiens croient ? Tous les chrétiens croient que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur, mais tous les chrétiens ne sont pas baptisés. Alors, puisque ce n'est pas Dieu qui les empêche d'être baptisés, quelles peuvent être les autres raisons non bibliques qui empêchent ces chrétiens d'être baptisés ? C'est ce que je vous propose maintenant de voir. Certains chrétiens sont empêchés de se faire baptiser parce que eux-mêmes ou leur Église pensent que le baptême ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ils considèrent que les récits du baptême qui se trouvent dans le Nouveau Testament ne sont que des traditions qui correspondent à cette époque, mais que de nos jours, le baptême a perdu toute signification. Mais ils font erreur pour deux raisons. La première, c'est que encore de nos jours, dans notre culture, le baptême correspond à une pratique, à une tradition pleine de sens. Le baptême parle encore et toujours à nos concitoyens. Il signifie toujours quelque chose. Mais ils se trompent surtout pour une autre raison, biblique celle-ci. Le baptême est plus qu'une tradition, il correspond à la volonté de Dieu. Toujours acte 2:38. Que chacun de vous soit baptisé. Le baptême n'est pas seulement pour ceux qui le voudraient bien, il est pour tous ceux qui croient en Jésus. Et pour ceux qui en douteraient encore, l'évangile de Matthieu, celui par lequel je me suis converti, c'était pour ça, ne nous rapporte qu'une seule phrase que le Seigneur a prononcée entre sa résurrection et son ascension. Tout l'enseignement de Jésus après sa résurrection est résumé dans cette unique phrase. Une seule consigne, un seul commandement, et le voici, Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le baptême des chrétiens n'est pas qu'une tradition. C'est un commandement du Seigneur valable encore pour nous, car Jésus nous demande de pratiquer le baptême jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour. Excusez-moi. Une autre raison peut empêcher les chrétiens de se faire baptiser. C'est de ne pas en voir l'utilité. Pourquoi est-ce que je me ferai baptiser? À quoi va me servir le baptême? Qu'est-ce que le baptême va changer pour moi? Ceux qui sont d'arrière-plan catholique ou ceux qui ont cheminé longtemps avant de se convertir sont particulièrement exposés à ne pas trouver une utilité à leur baptême. Tout d'abord, ceux qui sont d'arrière-plan catholique, ce qui est notre cas en France, nous sommes tous d'arrière-plan catholique. Pour nos frères catholiques, selon leur propre définition, le baptême est nécessaire au salut. Pour être sauvé, il faut être baptisé. Mais nous, en tant qu'évangéliques, nous croyons que le baptême ne sauve pas. Au contraire, le baptême est même réservé à ceux qui sont déjà sauvés. Alors le piège, c'est de faire un mélange entre notre culture catholique et notre connaissance de la Bible, et nous risquons d'arriver à une mauvaise conclusion. Puisque le baptême ne sauve pas, alors il est inutile de se faire baptiser. Mais Dieu n'a jamais dit « Soyez baptisés si jamais le baptême est nécessaire à votre salut. » Le message de Dieu par rapport au baptême, c'est « Si vous croyez que Jésus est votre Seigneur et que Jésus est celui qui vous a sauvé, alors soyez baptisés. » Le deuxième groupe qui risque de se priver du baptême, c'est celui des chrétiens qui ont connu une conversion toute en douceur. Ce sont particulièrement les enfants de chrétiens qui ont grandi dans l'Église et dont le cheminement a été long et progressif qui sont exposés. Parfois, ils ne savent pas avec exactitude depuis quand ils sont chrétiens, ni où se situe même précisément leur conversion. Certains n'ont même pas l'impression d'avoir vécu une conversion parce que, aussi loin que remontent leurs souvenirs, ils se souviennent qu'ils croyaient déjà en Jésus. Quand ils regardent leur vie, ce qu'ils constatent, c'est que cela fait déjà un moment qu'ils sont chrétiens. Ils étaient déjà chrétiens hier et ils ne sont pas baptisés. Alors pourquoi se ferait-il baptiser aujourd'hui ou bien même demain? Quel changement, quel événement justifie cela? Mais la question que Dieu veut que l'on se pose, ce n'est pas « Pourquoi est-ce que je me ferai baptiser ?» La question à laquelle Dieu veut que nous répondions, c'est « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Peu importe que l'on se soit converti depuis 2 jours, 20 ans, ou même que l'on ignore la date ou le moment où on s'est converti, la question n'est pas là. C'est plutôt, y a-t-il aujourd'hui quelque chose qui empêche que je sois baptisé? Si rien ne l'empêche, alors cela signifie que pour moi, le moment du baptême est venu. Il existe une autre raison qui peut empêcher les chrétiens de se faire baptiser. C'est de croire sincèrement qu'ils sont déjà baptisés. Si nous pensons avoir déjà été baptisés une fois, alors bien évidemment, nous n'allons pas nous faire baptiser une nouvelle fois. Il coexiste plusieurs pratiques, diverses compréhensions du baptême. Et cela n'est pas nouveau. Déjà, au début de l'Église, il existait plusieurs baptêmes. Acte 19. Paul arriva à Éphèse et après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples. Il demanda « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au travers de ce texte, nous voyons deux baptêmes différents. Le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême qui exprimait la repentance du péché. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Mais il manquait au baptême de Jean un autre volet, celui qui exprime que nous acceptons le salut offert en Jésus-Christ. Aussi, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il est intéressant de relever que le texte ne dit pas qu'ils ont été rebaptisés. Le baptême qu'ils ont reçu de Paul n'était pas destiné à remplacer le baptême de Jean. Le baptême de Jean était une bonne chose. C'était un baptême qui avait un sens, qui témoignait d'une foi sincère. Mais le baptême de Jean ne faisait qu'exprimer que les baptisés se repentaient de leurs péchés devant Dieu. C'est pour cette raison que Paul, après les avoir éclairés sur Jésus, va les baptiser, car jusqu'à présent, ils n'avaient pas reçu le baptême auquel Dieu appelle tous les chrétiens. Le baptême que Dieu nous commande de pratiquer, c'est l'acte au travers duquel le baptisé exprime que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Ce sont les seuls critères qui définissent ce qu'est le baptême. C'est donc par rapport à ces deux seuls critères que tous ceux qui ont reçu une forme ou une autre de baptême doivent se questionner pour savoir si, oui ou non, ils ont été baptisés selon la volonté de Dieu. Celui qui a été baptisé nourrisson, a-t-il manifesté par son baptême que Jésus était son Seigneur et son Sauveur? Et si jamais il était baptisé à 8 ans, 12 ans ou 14 ans? Que penser de la valeur du baptême reçu à 18 ans, mais avec la pression des parents et celle de l'Église? Le baptême est-il bien le reflet d'une foi personnelle? Et celui qui a été baptisé adulte, mais selon le rite catholique, a-t-il véritablement manifesté que Jésus était son Seigneur et son Sauveur? Ou bien mettait-il également autre chose derrière son baptême? Et quelqu'un qui, comme moi, a été baptisé en dehors de toute église, même pas par un pasteur, même pas par un chrétien engagé, à peine quelques jours après sa conversion, sans avoir lu la Bible en totalité, sans aucune préparation, est-ce que quelqu'un comme moi a bien compris ce que signifiait vraiment le baptême? On pourrait allonger cette liste encore et encore. Il y a tellement de parcours et de situations différentes. L'important, c'est que ceux qui pensent avoir déjà été baptisés puissent évaluer leur baptême à la lumière de l'enseignement biblique. Si au travers de leur baptême, ils ont bien manifesté que Jésus était leur Seigneur et leur Sauveur, formidable. Ils ont accompli ce que Dieu attendait d'eux. Et Dieu ne leur demande pas de se faire baptiser à nouveau, c'est déjà fait. Mais si au travers du baptême qu'ils ont reçu, ils n'ont pas manifesté que Jésus était leur Seigneur et leur Sauveur personnel, alors qu'est-ce qui les empêche de se faire baptiser? Le regard des autres? Mais le regard du Seigneur n'est-il pas plus précieux, plus réconfortant, plus réjouissant que le regard des autres? L'attachement à une tradition, mais l'attachement au Seigneur est plus profond et plus sécurisant, plus juste que celui d'une tradition. Voilà un dernier point qui peut nous empêcher d'être baptisés. C'est de croire que l'on est indigne d'être baptisé parce que l'on n'est pas assez saint, pas assez bien pour être baptisé. Si quelqu'un se pose cette question, c'est très encourageant, car cela signifie qu'il accorde une grande importance à la sainteté de Dieu et qu'il réalise l'immense distance qui nous sépare de la perfection de Dieu. Car nous sommes tous indignes de nous tenir dans la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est justement ce qu'exprime le baptême. Nous reconnaissons notre indignité et nous acceptons que Jésus soit mort pour nous. Mais le baptême doit aussi être précédé par notre repentance. Alors que faire si nous sommes conscients d'un péché dans notre vie et que nous continuons malgré tout à pécher? Pouvons-nous demander le baptême dans ces conditions? S'il fallait d'abord réussir à ne plus jamais pécher pour être baptisé, alors personne ne pourrait être baptisé parce que personne n'y arriverait. Mais Dieu ne nous demande pas pour autant de rester passif face à notre péché. Au contraire, notre péché doit nous attrister. Nous devons en demander pardon à Dieu et faire tous nos efforts pour lutter contre notre péché. C'est ça la repentance. Voici un verset qui illustre cette tension qu'il peut y avoir entre notre volonté de lutter contre le péché et notre difficulté d'y parvenir. Marc 14, 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Celui qui envisage le baptême doit discerner si, oui ou non, il a renoncé à son péché. S'il n'y a pas renoncé, s'il ne cherche pas à se conformer à la volonté de Dieu, alors il ne doit pas envisager le baptême. Car Jésus n'est pas encore son Seigneur. Il faut d'abord que Dieu devienne le Seigneur de sa vie et qu'il passe par la repentance, car pour l'instant, son esprit n'est pas bien disposé vis-à-vis de Dieu. Mais si celui qui envisage le baptême constate qu'il est pécheur et qu'il en est attristé, s'il lutte contre son péché dans l'espoir de mener une vie conforme à la volonté de Dieu, alors oui, il peut demander le baptême. Il peut demander le baptême même s'il n'est pas encore vainqueur dans sa lutte contre le péché. Son esprit est bien disposé, mais c'est sa nature qui est encore faible. En luttant contre son péché, il manifeste que Jésus est bien son Seigneur. Et parce que Jésus est à la fois son Seigneur, mais aussi son Sauveur, il sait qu'il pourra compter sur le soutien de Dieu, mais aussi sur sa grâce dans sa lutte contre son péché. Le baptême n'indique pas que l'on a franchi la ligne d'arrivée dans la course à la sanctification, mais le baptême manifeste que l'on a pris le départ et que nous marchons avec le Seigneur. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous avons pris le départ. Dieu, dans sa sagesse, a instauré le baptême. Il a voulu que tous ceux qui avaient reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur le manifestent au travers de leur baptême. Des fois, poussés par notre désir d'évangéliser, nous avons tendance à faire du baptême un témoignage pour les autres. Pourquoi pas? Mais le baptême est avant tout un acte d'obéissance pour nous. Même si nous n'en comprenons pas l'intérêt, en nous faisant baptiser, nous mettons en action notre désir de suivre Jésus. Luc 16, 10 dit ceci. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Comment imaginer que nous serons prêts à suivre Jésus dans les grandes choses si nous ne sommes pas déjà disposés à le suivre dans une chose aussi simple que le baptême? Non seulement Jésus nous a sauvés, mais Jésus nous invite à le suivre. Jésus a un plan, un projet pour notre vie, mais pour le réaliser, il nous faut faire confiance à Jésus et le suivre sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Et ce chemin de confiance et d'obéissance passe par le baptême. La question que nous devons nous poser n'est pas « Pourquoi est-ce que je me ferai baptiser ?» mais « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Amen.